Vous êtes sur RTL.
En sourire.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin Bruno Dellinger, rescapé des attaques du 11 septembre 2001.
Bonjour Bruno Dellinger.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL depuis New York. Bruno Dellinger, vous êtes un survivant, un miraculé. En 2001, vous aviez 40 ans, vous étiez un Français installé à New York et un chef d'entreprise heureux avec des bureaux magnifiques au 47e étage de la tour numéro 1 du World Trade Center. Mais le 11 septembre 2001, à 8h46 précisément, eh bien votre destin a basculé ce jour des attentats qui ont donc marqué notre histoire collective. J'ai envie de vous demander, Bruno Dellinger, nous sommes 20 ans plus tard, et quelle est l'image qui vous revient spontanément de ce jour tragique ?
Spontanément, c'est probablement la stupéfaction de l'écroulement des façades devant mes yeux, et puis du tangage de la tour. C'est une multitude de moments violents.
Vous venez d'arriver dans vos bureaux quand tout à coup, la tour se met à trembler, vous le dites.
Je comprends que c'est un avion, parce que j'ai entendu le bruit des moteurs, et donc quand j'ai levé les yeux, il arrivait sur la tour.
Ça tangue tellement que vous êtes obligé de tenir l'une de vos salariés par les épaules.
Oui, et ça, 2 minutes après l'impact, à peu près. On avait l'habitude des tangages de la tour pendant l'hiver, hein, où on entendait les haubans crisser. Mais là, il ne s'agit plus du tout de la même chose. On a un bâtiment qui tangue violemment du nord au sud, hein, et on entend ces haubans qui crissent au bord de la rupture.
Et vos salariés donc quittent les lieux. Vous, vous décidez de ne pas fuir tout de suite. Vous, finalement, ça va vous prendre un peu de temps de réaliser qu'il faut partir.
Oui, je ne réalise pas d'ailleurs qu'il faut partir. Je pars 20 minutes après, hein, après avoir répondu aux appels téléphoniques des parents, des employés par exemple, ou d'autres appels qui continuaient à arriver, inquiets, alertés immédiatement. Mais moi, de l'intérieur, je ne réalise pas la gravité de ce qui se passe. En revanche, soudain, une petite voix à l'intérieur de moi-même m'intime véritablement l'ordre de partir. Et ça, c'était encore un mystère de cette journée. Est-ce la main de Dieu ? Est-ce simplement que nous sommes tellement bien faits qu'à un moment, pour la survie, l'intuition vous dit, ou votre cerveau vous dit, il faut sortir ? Mais en tout cas, clairement, je la ressens encore, cette petite voix qui me dit, maintenant, tu pars.
Vous prenez soin de fermer à clé votre bureau, comme si vous alliez y revenir ?
Oui, absolument. J'ai encore la dernière image de mon bureau dans les yeux. À l'époque, on prenait pas comme aujourd'hui, beaucoup de photos finalement. Et donc j'ai aucune photo de l'intérieur de mon bureau. En revanche, j'ai dans ma mémoire, au moment où je tire la porte et où je ferme à clé, l'image de ce lieu de paix et de beauté vraiment resplendissant.
Et donc après, eh bien, c'est plutôt une vision d'angoisse, presque d'enfer, puisqu'il vous faut 50 minutes, vous l'avez dit, de descendre des escaliers pour atteindre le hall d'entrée. Donc on l'imagine, 50 longues minutes d'angoisse ?
D'angoisse, non, toujours pas. Est-ce des instincts de préservation ? C'est possible. Mais en tout cas, chacun d'entre nous descend calmement. On avance littéralement pas à pas. Et dans cette chaleur étouffante, eh bien, chacun sait très bien que s'il y a le moindre geste de panique, c'est la fin pour tout le monde. Donc tout le monde est calme.
Et les pompiers, vous les voyez, eux, monter, gravir les étages quand vous les descendez. Il y a des visages qui vous ont marqué.
Ah oui, il y a un visage qui m'a marqué. Je pense à qui je dois la vie. Parce qu'il se trouve que quand j'ai quitté mon bureau, je l'ai fermé à clé. Et arrivé aux alentours du 45e ou 42e étage, je ne sais plus exactement, je me suis dit, mais ça se fait pas. Quand il y a un incendie ou quelque chose de grave, il faut laisser la porte ouverte. Donc j'ai failli remonter pour rouvrir la porte. Et là, j'étais certain de mourir parce que des gens qui étaient partis en même temps que moi, donc lors de mon évacuation, eux sont décédés et moi je suis sorti. Si j'avais perdu du temps supplémentaire, je devais mourir. Mais au moment où j'ai eu cette pensée, j'ai croisé ce pompier qui avait l'air harassé littéralement. Et il était épuisé déjà et il portait une hache. Et je me suis dit, ben, s'il a une hache, de toute façon, il n'y a pas de difficulté, il défoncera la porte. Et je suis resté dans le flux. Et sans le savoir, cet homme, alors que je descendais vers la vie et que lui montait vers la mort, littéralement, bien, m'a sauvé la vie, certainement.
Vous parvenez enfin en bas de la tour, dans l'immense hall d'entrée, et vous sortez juste le temps de vous mettre à l'abri, en fait.
Je sors par le centre commercial du World Trade Center, sous les sprinklers, après avoir contemplé la dévastation de ce lobby. Ce lobby symbolisait beaucoup de choses pour les gens du World Trade Center. D'abord, c'était une cathédrale. Ensuite, il était parcouru par tous les drapeaux du monde. Et ce n'est pas le symbole de la puissance de l'Amérique, comme tout le monde voyait dans ses tours, mais bien une utopie vivante qui était dans ce lobby, avec tous les peuples de la Terre, toutes les races, toutes les religions. Et ce lobby, il est complètement dévasté. Les drapeaux sont fauchés, il n'y a plus un mur en verre, il n'y a plus rien. Il y a en fait un moteur d'avion qui est, semble-t-il, descendu par une cage d'ascenseur et qui s'est fracassé dans le lobby. Alors il est parcouru dans tous les sens par des pompiers, par ceci, par cela, des gens qui sortent, qui évacuent. Et quand je sors dans la rue, je lève la tête, je vois la tour en feu. Et cette tour en feu, c'est une image pour à toujours gravée dans ma mémoire que je n'ai vue qu'une fois. Cette espèce de couronne d'épines avec ses volutes noires et ses flammes d'une orange, rouge, qui s'en échappe, c'est une vision de l'enfer, hein, qui se sous vos yeux. Et puis je fais deux pas, je veux me retourner une deuxième fois parce que je n'arrive pas à croire que c'est possible. Et je la vois pas une deuxième fois parce qu'à ce moment-ci, la tour numéro 2 s'écroule. Et évidemment, mon attention est attirée par l'immense, le cataclysmique bruit de cet effondrement d'un demi-kilomètre de tour qui se produit à quelques dizaines de mètres de moi, puisque je suis sur Church Street. Et immédiatement, la sensation d'un danger colossal.
Et on est tôt le matin.
Qui s'approche de nous.
On est tôt le matin, et pourtant, vous dites c'est la nuit qui s'abat.
Quand le monstre arrive sur nous, il est précédé, bien sûr, de l'air qu'il pousse devant comme une locomotive, d'une certaine manière. Donc, on se prépare, et d'un seul coup, on est engouffré. Et quand on est engouffré, après avoir été choqué par la violence du choc lui-même, d'un seul coup, tout devient plus noir qu'une nuit. Vous voyez une nuit, plus noir encore. Et puis d'un seul coup, il n'y a plus un bruit, parce que l'air est devenu tellement épais qu'il ne vibre plus, il ne laisse plus passer le son, les ondes de sonores. Mon corps est persuadé qu'il est mort, voilà. Parce que mon cerveau n'arrive plus à processer cette information, tant elle est énorme. On peut pas comprendre une telle démesure, surtout pris par surprise comme ça sans préparation.
Vous pensiez donc, être mort à ce moment-là, Bruno Dellinger ?
Ah oui, clairement, et j'en ai la preuve, parce que pendant des semaines et des semaines, en me promenant dans la rue, j'avais un signal de vie qui me rentrait par les yeux, ou par les oreilles, ou par les narines, ou par tous les sens. Et en réalité, dans ma tête se produisait un court-circuit, parce que du fond de mon être sortait le message inverse. C'est pas possible puisque tu es mort. Donc j'ai cru devenir fou.
Fort heureusement, vous n'avez été que légèrement blessé, mais vous dites votre corps, lui, il a parlé après coup.
À partir du moment où j'ai pris la plume, mon visage a commencé à doubler, tripler de volume d'un côté, et puis ensuite, tout disparaissait, puis c'était de l'autre côté. Puis j'en avais sur la tête et sur partout. Des enflures, quasimodo. Hein. Et ça a duré pendant les 2 mois de l'écriture du livre. Et le jour où j'ai renvoyé le manuscrit à mon éditeur, tout a disparu. Comme si j'avais sorti tout de mon organisme. Et lorsqu'il a fallu faire des corrections, tout est revenu. Le visage, en l'espace de 10 minutes, j'étais complètement défiguré.
Je crois savoir que vous êtes avec vos enfants aujourd'hui à New York. Ils ont, je crois, 16 et 18 ans. Et c'est la première fois qu'ils viennent avec vous à New York, parce que vous avez aussi le besoin de leur transmettre sur place cette mémoire ?
C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était des enfants. J'essayais de ne pas les exposer à ces journées-ci. Mais au fond, maintenant, ce sont de jeunes adultes. Et je pense qu'il y a un moment de transmission. Et la journée du 11 septembre à New York, elle est triste, certes, mais il y a beaucoup de ferveur. La ville est toujours plus silencieuse le 11 septembre. Et ça ne manque pas aujourd'hui.
Je crois que vous avez un rituel particulier chaque 11 septembre, c'est de prendre des nouvelles des salariés qui travaillent avec vous, de ceux qui étaient vos collaborateurs.
Ah oui, c'est mes frères et sœurs d'armes, ça. Il y a un lien indélébile, hein, enfin inextinguible qui existe entre nous. Voilà, cette journée-là, on se parle toujours, on s'envoie toujours un message, parfois on va déjeuner ensemble ou on fera quelque chose de toute façon.
Bruno Dellinger, qu'est-ce que vous avez envie de dire à un jeune de 20 ans aujourd'hui qui n'a pas connu cet événement ?
Eh ben écoutez, j'ai envie de lui dire de ne pas se laisser obséder par les images et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé par les êtres humains qui peuplaient ces deux tours. C'était une petite ville, c'était 50 000 personnes, une ville de taille moyenne en France. Donc ça donne une idée de la démesure de ce qui s'est passé. On a rasé une ville entière. Au fond, dans cette ville, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, des victimes, dans des conditions épouvantables. Je rappelle que la violence des événements est telle que il y a plusieurs centaines de personnes dont on n'a pas retrouvé de traces d'ADN. Leur ADN a été vaporisé, littéralement. Donc c'est des conditions de mort absolument épouvantables. Et moi, c'est ça que je voudrais dire à une génération entière, de ne pas oublier ce souvenir du 11 septembre, d'essayer de l'approfondir pour en comprendre les mécanismes et surtout mettre en avant non pas l'acte lui-même, mais la résilience de tous ceux qui, de manière inconnue et comme chaque fois dans les attentats, survivent dans l'anonymat. Et je rappelle aussi l'importance des convictions, de croire en un certain nombre de choses, pour pouvoir justement traverser ces événements-là.
Merci beaucoup Bruno Dellinger, vraiment merci. Bonne journée à vous.
Je vous en prie, bonne journée à vous aussi.
Au revoir.
Avec les deux tours, on a rasé une ville de 50 000 habitants, nous dit Bruno Dellinger, rescapé donc des attaques du 11 septembre 2001. Merci à tous les deux. Benjamin Sportouche, on vous retrouve dimanche à midi pour le Grand Jury.